RCF. Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur, quand c'était la guerre. Alors cette semaine, nous partons à la rencontre de Jean Delahaut. Alors Delahaut, ça vous dit peut-être quelque chose. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques semaines, nous avons interviewé Mariette Delahaut. Et bien ici, Jean Delahaut, et bien c'est son frère, donc on a déjà un peu parlé de lui dans l'interview de Mariette Delahaut. Eh bien, aujourd'hui, il va nous raconter son point de vue, son histoire, qui évidemment est différente puisque il était parti en exode séparément. Donc, il n'était pas avec ses parents et sa sœur au moment de l'exode. Et justement, bah, c'est un peu son ressenti qu'on va entendre aujourd'hui. Et le début de l'histoire va nous amener dans le quartier de Baumel, puisque c'est là où il habitait avec ses parents, évidemment, avant de partir en exode. Jean Delahaut, il est né en novembre 1923, il est un petit peu plus jeune que sa sœur, et donc bah, il avait quand même déjà 16 ans au moment de la déclaration de guerre, c'était déjà un grand garçon, et justement on va voir ce que ça implique pour lui, vous verrez que l'histoire est vraiment pas mal intéressante. Je vous rappelle que tous les podcasts, toutes les émissions peuvent être réécoutées sur notre site internet qui est www.namuranguerre.be. Vous pourrez écouter toutes les émissions, celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est déjà la 50e, mais donc vous pourrez écouter toutes les émissions que nous avons réalisées sur ce thème. Vous pourrez les retrouver sur le site www.namuranguerre.be. Allez, assez discuté, je vous laisse donc en compagnie de Jean Delahaut.
Moi j'étais donc au collège, j'étais en poésie à l'époque, et alors un jour de mai, en se levant le matin, j'avais le grand ciel bleu, et puis on a entendu les sirènes, et puis on a vu des avions, etc. Et ça c'était le début de la guerre, et on a été presque pris de court, je dirais, parce que tout de suite on nous dit « Ah mais vous êtes dans les crabes ». Devait rejoindre des centres de recrutement de l'armée belge, dont je n'avais jamais entendu parler. Mais enfin, bref, par la radio, par le collège, on a mis en branle tout de suite un départ pour les jeunes, pour qu'ils aillent se mettre. Donc moi, je suis un cas particulier par rapport à mes parents et ma sœur. Mes parents et ma sœur, ils ont trouvé un ami qui avait une voiture, ils sont partis et ils sont allés en Bretagne. Ils sont allés prendre des vacances en Bretagne. Ils ont été très bien reçus là-bas, ils se sont fait des amis qui sont revenus en Belgique après, enfin bref. Contrairement à ce qu'on entend souvent, on dit « Oh, les Belges vont être mal accueillis ». Moi j'ai été très bien accueilli dans mon idée. Bon, moi de mon côté donc, crabe, j'ai dû prendre le train le soir même, le lendemain je crois. Et puis le train est parti avec tous les jeunes pour aller à Quiévrain. À Quiévrain, on y est allé, je crois qu'on s'est arrêté 22 fois. C'était un train qui était menacé par des avions tout le temps. Hein. C'était déjà la guerre à ce moment-là. Et à Quiévrain, on a trouvé des logements chez d'habitants. Et là, c'était la concentration de milliers de jeunes. Et Quiévrain était bombardé. Et il y a eu pas mal de jeunes qui sont morts là. Mais nous ne pouvions pas bouger de Quiévrain parce que la France avait fermé les frontières pour pouvoir amener ses troupes. Hein. Alors on était là, on se tournait les pouces et on bombardait Quiévrain. Enfin bref, on en est bien sorti. Bon, je dois dire que bon, je me dis que je suis un privilégié parce que je suis toujours passé à côté des situations graves. Il y a quand même eu des morts à Quiévrain. Alors on a fait l'exode On était partis, on s'était groupés entre jeunes du collège Notre-Dame de la Paix, de poésie, et on était dirigés par un père jésuite qui s'est consacré à notre exode, si vous voulez. Alors la frontière s'est ouverte, on est parti à pied, on a fait 100 km à pied. On a marché le jour, la nuit, on se reposait, on marchait 2 heures, on se reposait 1 heure, enfin bref, ça a été un exode pénible pour beaucoup, qui avaient les pieds en sang, nous, moi j'étais sporté, ça allait, et poussant des petites charrettes, lesquelles ont mis nos valises, et faire comme ça. On était parmi une foule qui marchait à 3 à l'heure, hein, avec des voitures qui n'avançaient pas, etc. Et ça, c'était un périple assez éprouvant, mais enfin, éprouvant. Mais là encore, notre groupe a échappé à toute action mortelle. Au bombardement, il y en a eu, mais c'est à côté de nous. Et le groupe des rhétoriciens, l'autre groupe des jésuites, eux, ils ont eu 3 morts. Hein. Donc, l'exode, c'était quand même un passage obligé, mais qui a pu être terrible pour certains. Alors moi, je suis arrivé avec ce groupe-là à Paris. On a été, c'est-à-dire qu'on a trouvé à un moment donné un train qui venait d'amener des Français. Et ils nous ont dit, ah mais vous savez, le train retourne à Paris, hein, pour monter dedans. Et nous avons achevé notre périple vers le sud en train, à Clamart, Paris. Il y avait un collège jésuite, on est resté 1 jour ou 2 pour récupérer un peu. Moi, je crois que j'ai dormi 36 heures de suite. Et pour finir, on est allé dans le midi et on était accueillis à Saint-Privat des Vieux. Joli nom de village et joli village aussi, avec sa petite place, avec son église, avec son bureau de tabac, etc. Et là, on s'est mis à la disposition des agriculteurs du coin. Et on a sulfaté les vignes. Et on était logés. Certains étaient logés dans une grange, d'autres étaient logés chez l'habitant. Et on a vécu pendant 3 mois comme ça, chez l'habitant en France.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Voilà, donc ça c'est ça a été une espèce de vacances. qui avait mal débuté et qui a bien continué, bien fini, parce que j'ai eu des nouvelles de mes parents qui étaient partis, donc c'était notre grande préoccupation. Bon, un, qu'est-ce qu'on va faire de nous? On n'en sait rien. Hein, mais où sont nos parents? Que viennent nos maisons, etc. Or, chez moi, mes parents, ils étaient déjà en train de se réconforter en Bretagne, n'avons pas une autre maison abîmée, donc je me considère comme privilégié. Et par la suite, toute ma vie pendant la guerre, je trouve que bon, ça m'a bien tiré. Voilà. Voilà. Donc nous voilà dans le Midi. Donc, on a créé des amitiés plutôt avec les méridionaux, on s'entendait très bien. On disait la messe, on chantait la messe, on avait fait une chorale, on animait un peu le village. Quelques années après, je suis retourné pour aller leur dire bonjour. Hein, comme mes parents, ils ont eu l'inverse, les gens de Bretagne sont venus par ici. Enfin, on a noué des mots. J'y suis retourné 10 ans après encore pour dire bonjour. Mais cette marche forcée, quand même, pendant 100 km, du 200, c'est peut-être 110, je ne sais plus exactement, ça a duré des jours et quelques nuits, c'était quand même quelque chose d'assez fatigant. Hein. C'était vraiment du grand sport, hein, parce qu'on était parti avec une petite valise, quelques vêtements. Mes parents, pour me mettre à l'abri, m'avaient cousu des pièces d'or. Dans une petite ceinture que portait la taille, donc pour le cas où, pour un dépannage éventuel. Deuxième remarque sur ce déplacement-là, oui, on avait de quoi manger pour 48 heures, puis après on n'avait plus rien. Et puis alors, j'ai essayé d'aller trouver quelque chose dans les épiceries, hein. Tout a été vidé évidemment, toute cette foule était déjà passée un peu avant nous. Il n'y avait plus rien. Alors on essayait d'aller traire des vaches avec des pieds comme ça, qui ne se laissait pas faire, de vous dire, enfin, avec d'autres. Voilà, mais on s'en est tiré. Voilà. Donc me voilà en exode. Et puis là-bas, c'était la recherche dans des parents, des amis, etc. Dans toutes les villes de France, il y avait des affiches dans les mairies avec « Je cherche ma sœur, je cherche mon père », etc. Et on allait voir. Et j'ai retrouvé un frère de mon père, en allant comme ça, et qui j'ai lui à Montpellier, près de Montpellier, avec ses filles et sa femme. Et à la fin, après un certain temps, j'ai quitté mon camp. Et je suis allé quelques jours chez eux, et à Montpellier. Et alors là, par chance, mon oncle avait trouvé un camion de charbon, un camion à charbon, qui remontait vers la Belgique. Et alors, je les ai accompagnés. Et si on a monté, il a fallu plusieurs jours, parce qu'il fallait trouver de l'essence. Hein. Les Allemands entendaient parfois des litres d'essence par-ci, par-là, il fallait chaque fois faire des tractations pour pouvoir alimenter le moteur d'une vieille voiture qui avançait péniblement dans les montées et s'arrêtait. Je sautais du camion, j'allais mettre des câbles. Donc, enfin, ça c'est un peu du sport aussi. C'est plutôt du scoutisme. Jusqu'à revenir en Belgique, où mes parents étaient déjà rentrés et où la maison était debout. Donc là, à partir de ce moment-là, a commencé ma vie normale pendant la guerre.
Pendant que vous étiez en exode, est-ce que vous aviez eu des nouvelles de vos parents?
Oui. On avait un point de contact à Paris. On s'était donné le mot, hein, et mes parents m'ont donné une adresse. Et alors, eux sont mis en contact avec cette personne, et cette personne, et moi, je me suis mis en contact. Et comme ça, la liaison était faite. Et d'ailleurs, j'ai des souvenirs, j'ai gardé ma correspondance et que j'aimais bien écrire à l'époque. Voilà, c'est pour vous dire qu'on avait eu des contacts, justement, ça répond à votre question. Hein? Et voilà. Et alors, tout ça, toute cette histoire-là, moi, je l'ai mis noir sur blanc. et ça a été édité au collège. Je faisais partie donc du... J'étais directeur, comme on disait à l'époque, de la Flûte de Pan, qui était le journal du collège. Et on a décrit ça pendant une dizaine de numéros. Donc, si je devais décrire les autres, je pourrais vous donner beaucoup de renseignements, vous dire tous les villages par où je suis passé. À propos des parents, je peux peut-être faire une petite réflexion qui a tout de même un peu son importance. C'est qu'ils avaient vécu l'autre guerre, celle de 1914-18. Mon père, qui était maraîcher, ça c'est son métier, était aussi à l'époque garde civique. Ce qu'on appelait garde civique, c'est quelqu'un qui a des petites responsabilités quand même dans l'organisation de la ville. Au fond. Et à ce titre-là, il était arrêté par les Allemands. Hein? C'était déjà un peu un gendarme, n'est-ce pas? Alors, et alors, il était emmené en Allemagne comme main-d'œuvre pour entretenir les grandes fermes allemandes. Il s'est d'ailleurs échappé trois fois. Il a été repris de trois fois. Donc il a passé trois ans en Allemagne. Souvenir de la guerre 14-18. Ma mère, elle, avait été, pendant l'avance des Allemands au niveau du pont de Jambe, emmenée avec un certain nombre de Namurois qui faisaient pare-choc. Hein? Baïonnette au canon, ils sont devant, on avance, et ils se protègent. Donc ils avaient vécu ces moments quand même émouvants, dangereux, qui se sont bien terminés, mais après, voilà. Donc le souvenir de 14-18 faisait que nos parents étaient plus inquiets pour nous que nous pour nous-mêmes. Voilà, c'est que je voulais, la petite remarque que je voulais faire.
Folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean? What a wonderful world! How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad." But what we are doing to it, and all I'm saying, is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies cry. Watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world.
I think to myself, what a wonderful world.
Il y avait ma résistance active autour de moi, sans que je le sache, les gens qui étaient dans l'armée blanche, etc. Oui, il y a quand même le frère de ma mère qui a été arrêté par les Allemands parce qu'il était soupçonné d'avoir favorisé le retour, enfin, si on peut dire, l'évacuation d'un pilote anglais dont une cellule de résistance s'est occupée et en a fait partie. Bon, bref, il a été enfermé, l'oncle en question. Il est resté pendant quelques mois à la prison de Namur, mais ça n'a pas été plus loin. Par contre, c'est parce que je dis que moi, je n'ai rien senti, rien éprouvé de grave. Mais mon futur beau-père, par exemple, il n'était pas encore mon futur beau-père à l'époque, mais enfin, je fréquentais déjà une jeune fille qui est devenue par ma femme. Eh bien, son père était ingénieur au téléphone et il aurait donné des plans des installations téléphoniques pour aider au sabordage par l'armée blanche. Hein. Et il a été fait prisonnier par les Allemands, expédié en Allemagne, il est mort à Neuengamme. Hein. Donc, mais il est mort à Neuengamme, mais sa mort, on l'apprend en 1945, la guerre est finie depuis longtemps. C'est pour ça que l'épisode de guerre, ben, il se termine quasiment quand les Allemands arrivent, passent à travers la mur pour se retirer. Quoi.
Donc elle a appris le décès de son père. Bien après qu'il soit décédé,
ah, oui,
alors.
Oui. On a ramené le corps 3 heures après. Ma sœur est allée faire un contrôle sur place avec la Croix-Rouge pour authentifier, pour donner un nom, si vous voulez, à ce corps qui avait été exhumé dans un cimetière allemand. Certaines caractéristiques sont apparues qui ont permis de l'identifier. Oui, voilà. Oui, ça, il y avait quand même pas grand-chose de positif dans mon activité anti-allemande. C'est pas que j'étais pro, non, mais j'étais un peu passif. Hein. L'exploit, c'était d'écouter la radio le soir, parce qu'on ne pouvait pas. Hein. On disait que les Allemands circulaient avec des voitures pour repérer les émissions radiophoniques, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on écoutait tous les soirs, en secret, hein, avec très peu d'intensité de poste. On écoutait les nouvelles françaises, hein. Les Français parlent au français, le train sifflera 3 fois, et le train sifflera 3 fois, ça voulait dire qu'on va parachuter les arbres aux résistants, à tel endroit. Hein. Mais ça, on écoutait. Hein. On avait donc des renseignements précis de leur part, parce que par ailleurs, on avait de faux renseignements du côté des Allemands. Hein, où les journaux allemands, on ne les lisait pas. Mais il y avait, moi, je ne me rappelle pas avoir lu un journal pendant la guerre. Il y avait eu des émissions spéciales de la Libre Belgique, mais ça, c'est sporadique. Hein. Il y en a eu quelques-unes et on n'a pas eu l'occasion de les avoir nécessairement en main. Donc, on avait des informations et on croyait ce que nous disait la radio française à Londres. Et voilà. Un détail que je pourrais souligner aussi, c'est qu'on était à Namur, on reste à Namur. On a quand même, j'étais à Louvain à la deuxième année, à la troisième année. Mais on y allait avec un système de locomotive assez vétuste, parce que les Allemands avaient pris ce qui servait de bon, donc nous, on disposait, les chemins de fer belges disposaient de vieilles locomotives rapiécées, si je peux dire. Alors on partait à Louvain le lundi soir, à 7h, on montait la côte de Rhin, et puis on n'arrivait pas au-dessus, on redescendait, hein, on repartait. On redescendait, on allait chercher une deuxième locomotive. Ah, avec ça, on allait jusqu'à Ottigny. À Ottigny, il fallait changer de train, il fallait prendre celui qui venait de Charleroi pour aller à Louvain. Oui, mais lui, il était déjà parti. Alors on logeait dans la gare. Hein? Ah, le genre d'aventure, qui sont des anecdotes bénignes, hein? Mais simplement pour dire qu'on prend ça, de bonne part, mais on prend ça comme une petite difficulté comme on en rencontre dans les concours.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qui a été la Seconde Guerre mondiale?
Moi, je je serais bien, moi, de la, de, que ce soit de la première, ou de la deuxième, ou de la 25e, ou de la guerre des Gaules, peu importe, que les dirigeants des pays n'arrivent pas à s'entendre, parce qu'un Allemand de 40, un Allemand de 14, c'est de braves types. Hein. Mais il a fallu qu'il y ait un Hitler pour endoctriner les gens et en faire des gens qui n'avaient plus notion de ce que c'était la fraternité. Donc moi, je retiens ça. Moi. Encore maintenant, quand je vois en Palestine ces machins-là et que le dirigeant-là, qui n'arrive pas à s'entendre, et pourtant, au départ, ils doivent être de bonne volonté, je ne sais pas moi. Ils sont tellement persuadés qu'ils ont raison.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes ?
C'est le message que je vais passer à la plupart de mes petits-enfants, puisque j'ai quand même 16 petits-enfants, 17 arrière-petits-enfants. C'est de ne pas ménager ses peines et de ne pas croire que les choses sont dues et qu'il faut quand même gagner son pain, je dirais. Et ça me revient à l'esprit parce que j'entends dire « Oh !» Avec le coronavirus, on ne sait plus aller en vacances, patati, patata. Eh bien, moi, j'étais pendant 5 ans, j'ai eu la guerre, je n'avais pas de vacances, je ne suis jamais plaint de ne pas avoir de vacances. J'étais là, j'étais content de vivre, j'étais content d'avoir des légumes, j'allais couper les fleurs de ma mère, bon, une vie normale et sans... Je vais presque dire sans histoire. Il ne faut pas non plus aller chercher ailleurs le bonheur qui vous tend les bras chez vous.
Et voilà donc pour le témoignage très intéressant de Jean Delahaut qui nous a reçus pas plus tard que la semaine dernière pour discuter et pour vous faire partager ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale à Namur. Jean Delahaut qui, on le rappelle, va quand même sur ses 98 ans, mais qui est vraiment bon pied, bon œil. En plus, j'avais eu la chance de le rencontrer déjà il y a 7 ans. À l'époque, j'avais fait tout un travail sur le bombardement du 18 août 44. Donc, c'est un immense plaisir pour moi de le retrouver. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va bientôt commémorer l'anniversaire de ce bombardement du 18 août 44. Et sachez qu'à cette occasion, pour l'Office du tourisme de Namur, je mènerai une visite guidée ce dimanche 22 août à 14h30. Si vous souhaitez participer, pour ça, rien de plus simple, il faut s'adresser à l'Office du tourisme de Namur et réserver sa place. Et à ce moment-là, le lieu de départ vous sera communiqué au moment de la réservation et du paiement de la balade. Voilà, n'hésitez pas à contacter l'Office du tourisme de Namur. C'est donc près de la gare, place de la station à Namur, pour ceux qui ne le situent pas. Je vous rappelle que tous les témoignages sont disponibles sur notre site internet www.namurenguerre.be. N'hésitez pas à les écouter et à les réécouter. Et puis nous, il nous reste encore 2 semaines d'émission seulement. Hein. On touche bientôt à la fin de ce programme. Et écoutez, le rendez-vous est pris. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Et malgré la météo, profitez quand même bien de votre été. À bientôt.